Père éternel, ce matin, on aborde, Seigneur, j'oserais dire, le sujet principal des Écritures, Jésus-Christ, celui par qui tu t'es révélé parfaitement. Seigneur, il n'y a pas de révélation plus grande de ta personne, de ta grandeur, de ta beauté, de ta grâce, de ta sainteté, de ta patience envers moi, Seigneur, que la personne de Christ. Seigneur Jésus, tu es précieux pour nous et te connaître et apprécier ton amour, ta personne, ta grandeur, Seigneur. C'est notre bonheur, c'est là qu'on trouve la vie. Tu es, Seigneur, la lumière. Père, je te prie de me remplir de ton esprit ce matin alors que nous penchons les regards sur ta parole. Viens éclairer nos cœurs, éclairer notre intelligence afin que nous apprécions davantage qui tu es, Seigneur Jésus. Et ce matin, alors que nous allons parler particulièrement de ton humanité, rends, Seigneur, cette humanité tangible à notre foi, afin que nous puissions nous identifier avec toi, ne pas se sentir loin de Dieu au milieu de nos épreuves, de nos tentations, de nos combats, Seigneur. Ne plus croire que la sanctification n'est pas possible, parce que toi, tu es l'homme parfait, tu es celui qui est notre modèle et celui à l'image duquel nous allons être formés. Je demande, Seigneur, de bénir ce cours ensemble ce matin. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Alors, bienvenue à tous. On a terminé la leçon sur le péché. Ce matin, on commence la leçon sur le Christ. Comme je le mentionne souvent dans le cours, c'est un survol qu'on fait seulement. Alors, je veux dire, quand le cours Christologie avec Stéphane repassera, sautez là-dessus. Dans le cours Christologie, Stéphane, en gros, travaille à partir de la thèse de doctorat d'Henri Blocher et puis fait une exposition, somme toute, de la thèse de doctorat de M. Blocher. Fait que c'est une autre histoire, vous comprenez? Là, on plonge. Mais vraiment, ici, on est dans un survol. On va passer deux dimanches sur la personne de Christ. Puis après ça, on va parler de son œuvre. C'est bon? Une définition pour commencer. Ce matin, on commence à adresser toute la question de son humanité et de sa divinité. Et je veux juste rappeler avant d'aller plus loin, comme je l'ai mentionné, je ne prendrai pas des questions tout au long, comme je le faisais au début. Ça me permet d'avancer davantage. Je vais couvrir une section, puis je vais vous demander si vous avez des questions. Alors, ce matin, on parle davantage de son humanité. Jésus-Christ était pleinement Dieu et pleinement homme en une seule personne et il le sera éternellement. Je vous dirais que sur cette doctrine-là et sur ce point de doctrine-là, beaucoup, beaucoup d'associations et de divisions se décident. D'accord? J'étais en train de parler avec Jérémie tout à l'heure. C'est ceci qui nous divise des témoins de Jéhovah. Ultimement, c'est ça qui nous divise aussi des musulmans, parce qu'ils vont parler de Jésus, mais jamais ils vont être prêts à admettre ce qu'on est en train de déclarer là. Et ça, c'est sur la base de la personne de Christ que le salut même devient possible. On va commencer à le voir ensemble ce matin. Alors, c'est vraiment une question importante et c'est un sujet sur lequel vos convictions doivent être très fermes et très, très claires pour que vous puissiez annoncer un évangile qui n'est pas juste comme, ben, tu as juste à dire le nom de Jésus, puis hula hop, tout va bien. Non, non, il faut que tu crois en Jésus-Christ, homme Dieu, crucifié pour tes péchés, ressuscité d'entre les morts. La naissance virginale, évidemment. Commençons par le début. Les Saintes Écritures affirment clairement que Jésus-Christ a eu une conception miraculeuse dans son humanité. En effet, il est né d'une vierge. D'accord? Alors ça, c'est important parce que ça va apporter certaines conséquences sur la doctrine, on va le voir un petit peu plus bas. Les passages, évidemment, Matthieu 1:20. Comme il y pensait, en parlant de Joseph, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Matthieu 1, 24-25, « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. » En quoi est-ce que c'est important? Premièrement, par la naissance virginale, nous voyons que Dieu initie toujours le salut des hommes. Je ne sais pas si ceux qui étaient avec moi dans le cours, la session précédente, Et lorsqu'on a commencé ce cours-là aussi, nous avons vu cette idée que Dieu est toujours l'initiateur de notre salut. Bien, en ceci aussi, il est l'initiateur de notre salut, dans le fait que notre Sauveur est né par une initiative de Dieu. C'est l'Esprit-Saint qui est là à la conception de Jésus. En effet, le Sauveur ne vient pas des hommes puisqu'il est né miraculeusement. Dieu n'avait-il pas promis à Ève que sa descendance écraserait la tête du serpent? C'est Dieu qui l'a accompli, non les hommes. Galates 4:5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Excusez-moi, c'est une vieille version de français. Quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il l'a envoyé ou il est né d'une vierge? Bien, il l'a envoyé puisque c'est l'Esprit-Saint. Je vais prendre les questions tantôt, au bout d'une section. Il l'a envoyé puisque c'est par une initiative de l'Esprit-Saint que cet enfant-là a été conçu. D'accord? Deuxièmement, en quoi est-ce que c'est important? La naissance virginale a rendu possible l'union entière de la pleine divinité et de la pleine humanité en une personne. Si Jésus-Christ est Dieu-homme, ça prend une part divine dans tout ça. Et donc, c'était nécessaire. Par la naissance virginale, Dieu nous aide à saisir la divinité de Christ. Et comme il est né d'une personne humaine, une femme, nous saisissons aussi son humanité. Une des manières que Grudem l'illustrait, il disait, ben, à la limite, je veux dire, Jésus, l'homme-Dieu, aurait pu apparaître. Tadam! Je suis fils de Dieu et homme. Tu sais, comme dans certains films, un extraterrestre, un cocoon, puis c'est un adulte. Qui sort? Homme-Dieu. Par la conception du Saint-Esprit, Dieu nous aide à comprendre en quoi c'est vraiment surnaturel. Christ est vraiment homme, puisqu'il est né d'une femme, et il est vraiment Dieu, puisque c'est par l'Esprit qui a été conçu. Et cette vérité-là devient beaucoup plus tangible à nos yeux. Troisièmement, la naissance virginale rend aussi possible la naissance de Christ sans nature pécheresse. Alors, si Christ doit offrir un sacrifice parfait, ça demande qu'il ne soit pas un pécheur comme nous. D'accord? Et donc, on entrevoit cette possibilité-là à ce moment-là parce que c'est par l'Esprit qu'il a été conçu. En effet, nous pouvons dire que Jésus ne descend pas d'Adam de la même manière que nous descendons d'Adam. Dans l'Ancien Testament spécialement, mais dans l'ensemble des Écritures, la lignée à travers le Père est importante. Jésus n'est pas fils de Joseph. Jésus n'est pas fils d'Adam dans un sens. Vous pourriez me dire, non, c'est pas vrai, parce que, je veux dire, Marie est quand même fille d'Adam. Oui, c'est vrai. Mais voyez-vous, au niveau de l'image, ce qui est là, il n'est pas fils d'Adam, dans le sens qu'on ne peut pas descendre la lignée de père en fils jusqu'à Christ. C'est l'Esprit qui l'a conçu. Dans Luc 1:35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors, l'idée que l'Esprit est là dans la conception, l'ange ici l'associe avec l'idée qu'on doit l'appeler Fils de Dieu. D'une manière unique, incomparable à aucun autre être, Jésus est fils de Dieu, parce qu'il a été conçu par l'Esprit. Alors, lorsqu'on veut placer Jésus sur le même pied d'égalité que d'autres prophètes, de d'autres religions, de d'autres églises, non, il est unique. Il est le Fils de Dieu. Ce qui est paradoxal avec l'islam, j'en parle un petit peu plus parce qu'on va avoir un témoignage avec Adam Odiko, tout ça. Mais ce qui est paradoxal avec l'islam, c'est que quand... Je vais parler dans ma compréhension de l'islam, d'accord? Là, je ne vais pas jouer avec les mots, là. Quand Mahomet a inventé l'islam, c'était un homme, comme les musulmans le savent, qui n'était pas cultivé, qui était illettré. Et donc, sa compréhension même du judaïsme et sa compréhension même du christianisme était très, très partielle. Et donc, lorsque vous lisez le Coran, puis vous lisez sa compréhension de Jésus, il y a des choses qu'il dit qui nous rapprochent des Écritures. Puis à un certain moment donné, étant donné qu'il avait comme ambition de créer sa religion, de créer son identité, de rassembler toutes ces tribus-là, mais il fallait aussi qu'il élève un autre personnage. Alors, selon l'islam, Jésus est un prophète incomparable. Il est vraiment au-dessus de tous les autres prophètes. Si vous parlez avec un musulman, Jésus est au-dessus de tous les prophètes. Et d'une certaine manière, il est fils de Dieu comme aucun autre. Ils vont dire ça. Parce que, comme je vous dis, Mahomet est entré en contact avec la culture et la religion des Juifs. Il est entré en contact avec la culture et la religion des chrétiens. Puis là, il a décidé de commencer son affaire. Et donc, lorsque vous lisez, par exemple, le Coran, quand vous êtes au début du Coran, il y a un plus grand respect pour les textes bibliques, Ancien et Nouveau Testament, que lorsque vous arrivez plus loin dans le Coran. Et la raison pour ça, c'est que probablement qu'il y avait des gens qui disaient « Oui, mais là, c'est parce que tu nous as dit de les respecter, les textes, mais en même temps, c'était en contradiction avec les textes, parce qu'on lit les textes, puis ça ne marche pas. Tu » sais. Mais Mahomet, c'était un illettré. Il n'y avait pas cette culture-là. Alors plus tard, il a commencé à dire que les chrétiens puis les juifs ont modifié les textes. Mais dans le Coran, il y a des sourates qui disent « Non, non, les textes qu'ils ont dans les mains, c'est la parole de Dieu. » En tout cas, parenthèse, mais tout ça pour dire qu'eux-mêmes ont cette idée que Christ est fils de Dieu d'une manière unique. Ça va? Je vous lis la note qui suit, d'accord? Ça, c'est une citation intégrale. D'ailleurs, j'aurais dû marquer que c'était une citation. Je suis désolé, j'aurais dû le mettre entre guillemets. Sur, évidemment, l'Immaculée Conception qu'on trouve dans l'Église catholique. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous êtes bien familiers avec ça, mais pour les plus jeunes, je trouvais ça utile. L'Église catholique romaine enseigne la doctrine de l'Immaculée Conception. Cette doctrine ne fait pas référence à la conception de Jésus dans le sein de Marie. Quand l'Immaculée Conception, c'est pas le fait que Jésus est né du Saint-Esprit. Mais à la conception de Marie dans le sein de sa mère. Alors, il a fallu à un certain moment donné bâtir quelque chose autour de ce personnage-là, Marie, si on veut lui vouer le culte qu'on veut lui vouer, d'accord? Alors, mais à la conception de Marie dans le sein de sa mère, et enseigne que celle-ci a été préservée du péché hérité. Donc, lorsque Marie elle-même a été conçue par ses parents, la nature pécheresse ne lui aurait pas été transmise, ce qui rendrait possible que le Saint-Esprit ait choisi Marie pour avoir un fils parfait. D'accord? Tout ça, ce n'est pas dans les Écritures. Là. C'est la conception. Quand vous entendez parler de l'Immaculée Conception de Marie, c'est ça l'idée. Le 8 décembre 1854, et ça c'est important, c'est juste pour relever le fait que plusieurs de ces cultes-là au sein ont été vraiment développés au 19e siècle. C'est pas quelque chose qui remonte à l'origine de l'Église catholique, admettons, au 6e, 7e siècle, d'accord? Il y a beaucoup de ça qui s'est développé plus tard. Il y a beaucoup, beaucoup de cultes des reliques qui s'est développé dans la période des croisades. Nous, on a l'impression que ça remonte quasiment comme à l'origine, mais si vous lisez, vous allez voir, c'est pas le cas, là. Le 8 décembre 1854, le pape Pie IX a proclamé « La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa conception, en vue des mérites de Jésus-Christ, préservée intacte de toute souillure du péché originel. » Catéchisme de l'Église catholique. L'Église catholique enseigne également que, par la grâce de Dieu, Marie est restée pure de tout péché personnel tout au long de sa vie. En réponse, nous devons admettre que le Nouveau Testament honore Marie comme celle à qui Dieu a accordé sa faveur, et qui est bénie plus que toutes les femmes. Alors, c'est vrai. On veut honorer la mémoire de cette femme-là comme on honore la mémoire des apôtres. Ces gens-là sont des modèles pour nous, puis Marie est un modèle pour nous. En fait, la triste réalité dans tout ça, c'est qu'avec le culte à Marie, l'Église catholique a amené certaines personnes à négliger cette femme-là comme modèle. Mais c'est un modèle extraordinaire. Restons dans les Écritures seulement. C'est juste ça l'idée. En réponse, nous devons admettre que le Nouveau Testament honore Marie comme celle à qui Dieu, je m'excuse, je suis en train de radoter, mais la Bible n'indique nulle part que Marie a été préservée du péché hérité. L'expression « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé sa faveur, le Seigneur est avec toi » signifie simplement que Marie a reçu une grande bénédiction de la part de Dieu. Le même mot traduit par « toi à qui Dieu a accordé sa faveur » en Luc 1, 28 est utilisé par Paul pour parler de tous les chrétiens. La gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Donc, elle a été favorisée pour cette mission-là. Nous avons été favorisés en recevant la grâce de Christ. Nous avons donc été, nous aussi, choisis par Dieu. En fait, le théologien catholique Ludwig Ott dit lui-même que la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie n'est pas explicitement révélée dans l'Écriture. Même s'il considère qu'elle est implicite dans Genèse 3, 15 et Luc 1, 28 et 41. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Oui. Je vais les répéter, OK? que Marie était pécheresse. Non. Oui. C'est quoi ta question? Bonne question. Est-ce que les gens du village, les gens de la place étaient au courant que Joseph n'était pas le père? Je pense pas. Le fils de Joseph, il était présenté comme le fils du charpentier. C'était, tantôt, on va citer ce texte-là. Fait que je ne penserais pas, à part ceux qui en avaient eu la révélation, je pense aux bergers peut-être, mais encore... c'est une bonne question. La question de Diane, c'est bon, pourquoi est-ce que Joseph voulait se. Bon, premièrement, Joseph est un homme droit, puis il voulait laisser Marie parce qu'il a su qu'elle était enceinte, puis il a dit il y a un mystère ici. C'est pas moi le papa. Fait que, comme c'était un homme d'honneur, il a voulu le faire sans comme amener ça sur la place publique. C'est ce que les Écritures nous disent. Mais il semble que le timing permettait qu'on puisse soupçonner peut-être des fréquentations. Précoce. Les gens s'agotaient? C'est ça que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire si le mariage était comme ce qu'on peut voir dans nos jours? Non, les fiançailles étaient extrêmement importantes à l'époque. Fait que lorsque tu étais fiancé à quelqu'un, tu étais quote unquote, tu étais pratiquement marié avec la personne, puis rompre des fiançailles, c'est quelque chose d'assez lourd. C'est quelque chose qui pouvait se faire. Non, c'était pas l'équivalent d'une répudiation, sauf qu'il fallait que tu aies vraiment des bonnes raisons. Puis il y avait tout l'élément culturel, familial qui s'ajoutait à ça. Karine, une autre question? Ouais, je dirais que ce serait une hypothèse. Josephus? Ouais, je dirais que c'est une hypothèse. Je vais juste le répéter. Karine a déjà entendu dans un enseignement que possiblement le fait justement que le mariage n'avait pas été célébré ou je sais pas quoi, puis que Marie, tu sais, des gens pouvaient se douter que elle est enceinte un petit peu tôt. Ça expliquerait le fait qu'ils ne trouvaient pas de place où dormir à Bethléem, puis se sont retrouvés dans une étape. Moi, je dirais que c'est une hypothèse, OK? Mais je ne pense pas qu'on peut vraiment affirmer ça. Une dernière question courte, puis je vais continuer à avancer. Non, c'est clair que Marie a eu d'autres enfants. Ça, c'est très clair, parce qu'il y a eu des frères. Oui, c'est clair. Oui, parce qu'il nous parle de ses frères dans un contexte où il nous parle de sa famille. Je me souviens plus de la référence exacte, mais lorsque la famille vient pour le chercher, tout ça. Et d'autres fois, ils vont faire la nuance justement entre Jacques, le frère de Jésus, puis les autres. Fait que non, c'est clair qu'il y a eu d'autres enfants. Oui, pardon? C'est ça, Jacques. Exact. OK, deux. La naissance virginale, Jésus avait un corps humain. Jésus est véritablement humain, avec un corps humain, il est né bébé, il a grandi comme tous les enfants. Bon, évidemment, on a des textes qui nous le disent, on n'a pas beaucoup d'informations sur la naissance de Christ, sur l'enfance de Christ, c'est pas essentiel dans la révélation, c'est pas central dans la révélation. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il était un enfant. Mais dans la culture catholique mystique, on a essayé de développer ça, puis on a essayé d'avoir des curiosités. Alors moi, j'avais un ami de la famille, un oncle à Stan qui a lu une mystique, je pense que c'est Maria Valtorta, qui a eu des révélations sur toute l'enfance de Jésus. je la raconte, puis vous avez peut-être déjà lu ça, là, des miracles que Jésus a fait lorsqu'il était petit, puis un oiseau ressuscité, puis des choses comme ça. Là. Les Écritures, Dieu, dans sa révélation, nous dit c'est la croix qui est importante. C'est son sacrifice, c'est son message, c'est le Fils de Dieu. C'est pas son enfance. Mais dans cette espèce de fascination pour avoir des récits, puis des petites anecdotes, puis tout ça, on trouve ça, d'accord? Et malheureusement, ce que ça a comme effet, puis d'ailleurs, Camille me parlait de quelqu'un d'autre qui a lu comme un autre livre encore de Révélation. La poursuite de ces anecdotes-là, comme venant de mystiques, à date, moi, ce que j'ai observé, dans tous les cas, ce que ça produit, c'est que la Bible devient plate à lire. C'est ça que ça produit. Ces gens-là vont lire ces récits-là. C'est écrit dans un langage contemporain. C'est écrit à notre époque. Vasula Riden, Maria Valtorta, ils vont lire ça. C'est une des deux, là, il y en a une des deux qui est en dialogue constant avec Jésus depuis comme 20 ans. Fait qu'il y a comme 30 livres de ses dialogues avec Jésus. Elle a écrit ça avec un langage contemporain. Fait que ça a de l'air moins loin déjà, tu sais, lorsque tu lis que ce que nous on lit ici. Mais quand je parlais avec Gabi, Gabi disait, Yannick, je ne suis pas sûr pour lire la Bible, c'est tellement plate. Après que tu aies lu ça, là, tu veux plus ça, là. Lis une révélation plus fraîche, tu sais. Et c'est ça que ça produit, c'est que les Écritures, ils peuvent plus sonder les Écritures. Puis là, il m'avait prêté une copie. Fait que j'ai juste commencé à lire, puis après 4-5 pages, on commençait à blasphémer. Là. On commençait à s'opposer aux Écritures clairement dans les textes. Quand je suis revenu le voir, puis j'ai dit, « Ouais, mais tu réalises que ces révélations sont en contradiction flagrante avec la Bible. » C'est clair, clair, clair. Là. Sur le rôle de Marie, évidemment, c'est assez simple à démontrer, là, tout son rôle de médiatrice. C'est une nouvelle médiatrice, tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est... Il a goûté à une révélation qui est plus... Fait que les Écritures ont plus d'importance. D'accord? Dieu nous en dit peu sur l'enfance de Jésus. C'est comme ça que Dieu le voulait. C'est parfait. C'est une bonne question. Je ne pourrais pas répondre ce matin. Non, c'est pas vrai. Les Esséniens, est-ce que c'est vrai? L'autre chose que je voulais dire, oui, c'est ça. Lorsque vous allez dans le livre de l'Apocalypse... on va pas tout être installé pendant l'éternité à regarder une vidéo de la vie de Jésus. Tu sais, à partir de son enfance, tu sais, puis le poupon, puis oh, tout ça. Puis... Non, c'est l'agneau immolé. C'est son sacrifice, c'est ça qui est important. C'est correct, les bergers, c'est important, tu sais, c'est wow. Mais c'est pas ça qu'on va adorer pendant l'éternité. Qu'on va adorer, c'est ce qu'il a fait pour le salut des hommes. Parce que c'est ça qui manifeste la gloire de Dieu. C'est bon? Fait que je pense que c'est bien de garder une attitude humble devant les Écritures puis dire, voici Dieu ce que tu as jugé bon de révéler à travers ta parole. C'est ça qu'on avait besoin pour notre foi, pour édifier notre foi. Alors, Jésus est entièrement humain. Il a éprouvé de la fatigue. Dans Jean 4, 6, il a eu faim, il a eu soif. Jean 19, 28. Bon, Matthieu 4, 2, c'est peut-être normal d'avoir faim après 40 jours, mais quand même, ça prouve son humanité, hein? Moi, après 40 jours, j'aurais eu faim. Lui aussi, bon, on se ressent. Ça va? Je suis pas sûr que je vais me rendre à 40, mais quand même, il a eu faim après 40 jours. Il est mort puisque son corps était mortel comme le nôtre. Ensuite, Jésus est ressuscité avec un corps humain et physique, bien qu'il s'agisse d'un corps parfait. Mais pour s'assurer que ses disciples saisissent vraiment son humanité après sa résurrection, Jésus va donner plusieurs preuves tangibles et concrètes de son humanité. Quand les gens attaquent la résurrection corporelle, véritable, avec un corps humain de Jésus, ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train d'attaquer sur notre espérance à nous. Si Christ n'est pas ressuscité avec un corps humain véritable, c'est quoi notre espoir à nous? Voyez-vous, lui, il est le premier ressuscité, le premier d'entre les frères. Sa résurrection véritable, c'est notre espoir de résurrection à nous. Alors, c'est important, c'est pas des points de doctrine mineurs et secondaires. Dans Luc 24, 39, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Jésus a jugé important de clarifier ça avec les gens. Il lui présenta du poisson rôti et un rayon de miel, il en prit et il en mangea devant eux. Jésus voulait faire la démonstration qu'il était vraiment homme après sa résurrection. Je suis rendu à la page 5, au milieu de la page 5. Jésus avait une pensée humaine. En effet, bien que Jésus ait eu des connaissances surnaturelles lors de son ministère, les Écritures nous disent tout de même qu'il a grandi dans sa compréhension au cours de son enfance. Donc, c'était un enfant, puis bon, après, on va parler du fait qu'il était sans péché. Alors, quand ses parents lui disaient « Non, Jésus, touche pas à ça », ça veut dire qu'il n'était pas en train de pécher lorsque lui le faisait. C'était vraiment ce qu'on va appeler des fois dans notre langage de l'enfantillage ou des choses comme ça. Mais il a fallu qu'il explique « Non, non, Jésus, si tu touches à ça, bobo, comme nous autres, il a fallu qu'il apprenne, d'accord? » Luc 2,52 « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Jésus avait une âme humaine et des émotions humaines. Par ces passages qui suivent, nous voyons que Jésus déclare lui-même avoir une âme et nous voyons qu'il éprouve des sentiments bien humains comme vous et moi. Dans Jean 12, 27, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Alors, il était troublé dans son âme. D'accord? Il était vraiment humain, troublé dans son cœur, comme vous puis moi, on peut l'être. On va dire que c'était pour des questions plus grandes que ce que nous, on est habitués, mais troublé. Vous savez, lorsque vous êtes troublé, là, Jésus a éprouvé ça, le Fils de Dieu. Celui qui, comme il sait toute chose, il s'adressait à la mer, puis la mer se calmait, pouvait être troublé dans sa foi. Tantôt, James dit, « Ah, je suis comme, je suis confus, là. » Jésus était troublé. Il a éprouvé une telle tristesse qu'il ressentait qu'il pourrait en mourir. Des fois, le vieux français ne nous aide pas comme à toucher à ce que Jésus est en train de dire. Lorsqu'il dit dans Matthieu 26, 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » La tristesse était tellement lourde là, que c'est comme, « Mais je vais mourir de cette tristesse-là. Là. » C'est une mort intérieure. Vous avez déjà vécu ça, des moments de tristesse où c'est comme, « Regarde, mort, ça serait moins lourd à vivre. » C'est ça que Jésus a vécu. Ça, c'est des sentiments humains, ça. Dieu, le Père, n'a jamais été triste jusqu'à la mort. Christ l'a été. Jésus a éprouvé de l'étonnement. Pensez-vous vraiment qu'on peut étonner Dieu, le Père? Oh, je suis surpris, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Jésus, oui, est humain. Dans Matthieu 8, 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité. Alors, une implication pratique de tout ça. Quand je m'en vais dans la prière, oui, c'est normal que je désire souvent parler à Jésus parce que je sens mon identification avec lui. Mais je peux même me servir de ces passages-là. Dans ma prière à Christ, puis dire, Seigneur, ton cœur a été troublé. Regarde, mon cœur est troublé, Seigneur. Puis tu as eu besoin de réconfort. J'ai besoin que tu viennes me réconforter. Tu connais ces choses-là. Tu sais ce que c'est douter. Toi-même, tu as souhaité autre chose que le plan de ton Père dans une certaine mesure. Tu savais que la bonne chose, c'était la croix. Hein? Je sais que tu veux me faire passer par là. Je sais que c'est la bonne chose, mais j'aimerais mieux autre chose. Voyez-vous, dans notre relation avec Christ, dans notre prière, alors c'est pour ça que quand des fois on va enseigner sur la prière, sur la louange, sur l'adoration, on veut approfondir le rôle de chacune des personnes de la Trinité parce qu'on veut être entièrement en relation avec Dieu dans toute sa richesse, dans toute la richesse de sa personne, parce que ça vient changer ma vie de prière. Ça vient nourrir mon adoration, ça vient nourrir ma foi de pouvoir m'identifier avec un sauveur qui a été troublé, qui a été étonné, qui a été triste au point de ne pas avoir le goût de vivre, de penser qu'il va en mourir. Jésus pleura, évidemment, dans Jean 11, 35. Hébreux 5, 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort. Trois petits points. Vous avez déjà vécu ça, des moments de prière où c'est le désespoir, puis c'est des supplications, puis c'est « Seigneur, j'en peux plus. Épargne-moi cette épreuve-là. Épargne-moi-la, Seigneur. C'est trop, trop dur, Seigneur. C'est trop dur. » Christ a vécu ça. D. Tout à l'heure, on y a fait allusion. « Les personnes autour de lui ne voyaient en lui qu'un homme. » Alors, non seulement il était vraiment humain parce qu'il avait une âme, parce qu'il éprouvait des sentiments comme nous, mais c'est intéressant juste de noter que pendant toute son enfance, les gens autour de lui, c'était juste un homme. C'était un homme. Homme. Ce qui va d'ailleurs en contradiction avec les soi-disant révélations sur l'enfance de Jésus. D'accord? Qui aurait fait des miracles pendant son enfance. Non, les gens disaient, c'est juste un homme. Voilà certainement un fait intéressant à relever. En effet, les gens qui ont connu Jésus au cours de son enfance ne voyaient rien de plus en lui qu'un homme comme tant d'autres. C'est pourquoi ceux de son village ont eu bien de la difficulté à accepter les miracles qu'il faisait lorsqu'il est revenu au milieu d'eux. C'est sûr que c'est leur incrédulité, mais en même temps, c'est comme, oh, attends un petit peu, là, c'était pas vraiment ça qu'on avait connu de lui. Matthieu 13, 53, 58, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Jésus va les confronter sur leur attitude, mais ce qu'ils évoquent, c'est « Oui, mais on t'a connu pendant ton enfance, t'étais comme pas hot comme ça, là, tu sais. Tu marchais pas sur les eaux quand le ballon tombait à l'eau, là. Non, tu faisais comme tout le monde, puis on sautait à l'eau pour aller chercher le ballon, tu sais. » Nous retrouvons le même genre d'attitude chez ceux de sa famille. Ceci n'empêchera pas certains d'entre eux de croire en lui, mais il est tout de même intéressant de relever ces faits dans notre présentation de l'humanité de Jésus-Christ. Maintenant, cet homme-là, qui était un vrai homme, était un homme sans péché. Et ça aussi, c'est très clair dans les Écritures. Paradoxalement, Jésus, bien qu'entièrement homme, était un homme sans péché. Cet aspect vraiment singulier de Christ nous est clairement enseigné dans la Bible. Mais en ceci, Jésus n'était pas absolument unique, car Adam et Ève avaient aussi été sans péché. Nous pouvons donc nous rappeler que l'état de pécheur que nous connaissons et expérimentons tous n'est en fait que l'état normal de la condition humaine. D'accord? L'homme a été créé non pas pour être pécheur, mais pour être sans péché, Adam et Ève. Et encore une fois, ce Jésus-là qui arrive, qui est sans péché, c'est l'homme parfait qu'on va redevenir. En lui, par son sacrifice, dans notre résurrection, on va redevenir homme parfait comme lui, sans péché. Pour nous, de voir un homme qui est sans péché, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est juste qu'il est normal. Il est normalement constitué. Il est tel que Dieu nous a conçus. Fait qu'il, oui, il est extraordinaire parce que la norme pour nous, c'est tous d'être pécheurs. Mais ce n'était pas ça le design du début. Le plan, le modèle de base, c'était sans péché, pas de défectuosité. Et donc, on regarde à Christ lorsqu'on lit les évangiles, puis on dit, non seulement c'est notre sauveur, puis il est là pour nous inspirer, mais il est ce que nous voulons être et il est ce que nous allons être dans ses réactions, dans ses comportements, dans ses attitudes, dans sa foi, dans sa confiance dans son Père, dans sa dépendance de Dieu. Il est ce qu'on veut être et il est ce que nous allons être. D'accord? Parce qu'on regarde un homme qui n'était pas affecté, comme on a vu avec la doctrine du péché, totalement dépravé, son intelligence, ses émotions, sa volonté, son corps, affecté par le péché. Tout ce qui lui restait, c'était cet aspect mortel. D'accord? Pardon? Il est conscient de quoi? Oui, il est très conscient qu'il est unique dans ce sens-là, puis qu'il est sans péché, puis il va faire l'argument. Là, j'ai sorti quelques versets. Je vais juste finir cette section-là, puis je vais prendre une question. Jésus affirme dans ce passage qu'il n'y a rien en lui de répréhensible dans cette circonstance. Qui de vous me convaincra de péché? Je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? L'apôtre Jean nous rapporte une parole puissante que Christ a prononcée. En effet, Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». OK, écoutez bien le raisonnement, c'est toute une déclaration que Jésus fait. Puis dans le contexte, là, si vous voulez prendre le temps d'aller le relire dans Jean, est-ce que j'ai donné la référence? C'est bête, c'est dans Jean 8, je suis pas mal sûr. C'est dans le contexte où Jésus pardonne à la femme pécheresse, puis après ça, il dit « Je suis la lumière du monde et ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres ». Implicitement, ça veut dire que Jésus est sans péché. Comment Jésus peut-il être la lumière du monde qui nous aide à ne pas marcher dans les ténèbres si lui-même marche dans les ténèbres? Si lui-même est pécheur? D'accord? Chacun d'entre nous, là, d'une manière ou d'une autre, on marche dans les ténèbres. Parce qu'on est pécheur. Puis si c'est pas là, ça va être dans 15 secondes. Si c'est pas dans 15 secondes, ça va être dans 3 minutes. Je peux vous amener à la lumière, je peux vous amener à Christ, mais j'oserai jamais dire que je suis la lumière. Pas de la manière que Christ le déclare ici. Et donc, Jésus est en train de déclarer sa pureté. Parce que non seulement il dit qu'il est la lumière, pas seulement dans le sens que je suis un phare puis je vais vous conduire au Père. Il dit non, celui qui me suit ne sera plus dans les ténèbres. Ça veut dire que lui ne marche pas dans les ténèbres. Lui, il est la lumière. D'accord? Pourquoi suivre Mahomet quand tu as pu suivre Jésus? Mahomet n'est pas la lumière. Jésus est la lumière. Pourquoi aller vers une autre révélation quand tu as pu suivre Jésus? Pourquoi on aurait besoin d'ajouter la révélation de Joseph Smith quand tu as pu suivre Jésus? C'est la lumière. Il n'y en a pas d'autre après. Dans l'éternité, c'est l'agneau qu'on va adorer. Il est la lumière. Lorsqu'on arrive à la fin de l'Apocalypse, cette réalité-là de la lumière qui éclaire puis de la présence de Christ, c'est très évidente aussi. Toujours au haut de la page 7, dans ce même chapitre de l'Évangile de Jean, il nous est rapporté que Jésus affirma faire constamment la volonté de Dieu. Quel homme pourrait se targuer d'une telle obéissance sans mentir ou afficher son arrogance? Or, en lisant les pages des quatre évangiles, des quatre récits de l'Évangile, nous sommes attirés par cet homme plus grand que nature et nous percevons clairement sa sainteté et la beauté de son âme. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis simplement en lisant les évangiles. Ils ont lu les évangiles et ils se sont convertis. Parce qu'ils ont découvert Christ en lisant les évangiles. Ils ont découvert sa beauté, sa vérité. Jésus prétendait qu'il faisait constamment la volonté de son Père, sans jamais y manquer. Donc, il affirmait ne pas pécher. Oups, excusez-moi. Alors, c'est ça, je vous donne une série de versets. Un autre argument qui est important dans le livre des Actes, Jésus est présenté régulièrement comme le saint ou le juste, aussi par d'autres auteurs que dans le livre des Actes, dans les Épîtres. On va parler de Jésus comme le saint. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Quand l'apôtre Paul parle de l'incarnation de Jésus, il prend bien soin de dire qu'il a revêtu une nature... Il prend bien soin de ne pas dire qu'il a revêtu une nature pécheresse, mais affirme plutôt que Dieu a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. On voit ici que Paul est comme en train de dire, « OK, c'est un homme, tu sais, mais il n'est pas pécheur. Il a une nature semblable à la nôtre, mais il n'est pas pécheur. » Dans 2 Corinthiens 5:21, il dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alors, c'est sûr que lorsque tu lis les évangiles, il y a des choses que Jésus ne déclare pas sur lui-même aussi clairement que chez les apôtres. Et ça, des fois, ça nous laisse perplexes. Là, on va parler de la divinité de Christ, tout ça. Puis là, il y a des déclarations de Jésus où tu dis, tu sais, tu n'aurais pas pu... Prends-le le piédestal, il est à toi de toute façon. Fais juste, déclare plus clair, tu sais. Monte dessus, là, on va dire, oh, c'est clair. Mais en même temps, il y avait cet aspect d'une révélation progressive de Christ, puis il y avait un temps, puis il y avait un moment... pour révéler certains aspects de sa personne. Alors, lorsqu'on arrive dans des textes comme ça, 2 Corinthiens 5:21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est clair. Hébreux 5:14, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache, 1 Pierre 1:19. Lui qui n'a point commis de péché, 1 Pierre 2:22. Avez-vous des questions sur ça? Oui. Si Christ est la lumière du monde, est-ce que ça veut dire que c'est Christ qui va éclairer dans le futur? Bien, la présence de Dieu dans l'Apocalypse nous dit qu'on n'a pas besoin de soleil, que Dieu est soleil. On va aller leur lire, Steph. Tu te rappelles-tu? Juste à la fin, il me semble que c'est assez clair. C'était à la toute fin de l'Apocalypse. La question, c'est est-ce que Christ va être la source de lumière physique aussi? Oui, c'est ça, mais tu as Dieu et le Fils qui sont ensemble. Là. Si je me souviens bien, c'est dans l'Apocalypse. C'est ça. OK, merci. Je la cherche, là, mais c'est dans Apocalypse 21. Si quelqu'un le trouve, faites juste nous donner la référence. Okay, c'est quoi la deuxième question? Est-ce que Christ a ressenti dans son humanité ses émotions? Oui. Oui, quand on prie, puis on est rendu au bout du rouleau dans nos épreuves. La question de Diane, c'est si je suis en train de vivre une épreuve, puis j'arrive comme à un point où j'ai juste comme plus le goût de supporter cette épreuve-là. Mettons ça à l'extrême, j'ai le goût de mettre fin à ma vie parce que la douleur est trop grande, c'est insupportable. Puis que j'évoque les souffrances de Christ pour dire tu dois comprendre ce que j'ai vécu parce que toi-même tu as vécu des souffrances où toi-même t'étais écrasé par ça. Est-ce que je l'insulte? Au contraire, ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, c'est qu'à cause qu'il a souffert ça, il peut avoir compassion de nous. Donc, je peux évoquer ses compassions sur la base de ses souffrances à lui. On comprend que ses souffrances dépassent les nôtres, c'est notre Seigneur. Mais en même temps, au contraire, en vertu de ça, l'auteur aux Hébreux nous dit, pour cette raison-là, il peut avoir compassion de nous. Il ne faut pas mépriser ça. Oui? 21-23, la référence pour ceux qui cherchaient. John, c'est ça de la musique. OK. J'avance, on continue. Jésus aurait-il pu pécher? Une petite question facile pour terminer ce matin, d'accord? Est-ce que Jésus aurait pu pécher? Non. Mais c'est par déduction qu'on le dit. D'accord? On va définir la... Quand tu veux répondre à une question comme celle-là, où il n'y a pas un verset qui dit « Jésus n'aurait pas pu pécher », mais il faut que tu travailles par déduction. Alors, tu vas aller chercher les affirmations claires des Écritures, puis tu vas faire la nuance entre ce que les Écritures affirment clairement puis ce que tu vas comprendre par déduction, puis tu vas dire, ben selon toute probabilité, là, dans ce que je peux comprendre du texte, je dirais non. Mais je n'irai pas plus loin que ça en même temps. D'accord? Alors, certains parlent de l'impeccabilité du Christ, c'est-à-dire que Christ aurait été incapable de pécher. Alors que d'autres arguent que s'il n'avait pas été capable de pécher, ses tentations n'auraient pas été réelles. Vous comprenez le dilemme? Si Christ ne pouvait pas pécher, est-ce qu'il était vraiment tenté? Ou c'était juste comme une mise en scène. Puis s'il pouvait pécher, ben est-ce que vraiment il était fils de Dieu puis Dieu? Alors on a dit là. Mais je vous avouerai que ça fait partie de certains mystères qu'on a de la difficulté exactement à comprendre. On y va par déduction, puis on dit, bon, ben probablement que c'est ça ici, la vérité là-dessus. Et on fait ça, on le fait même avec notre compréhension de la Trinité. D'accord? Ce qui agace ceux qui voudraient définir Dieu comme une équation mathématique. Tout à l'heure, je parlais avec Jérémy des témoins de Jéhovah. C'est un des points faibles des témoins de Jéhovah. Quand tu tiens à avoir un système théologique qui répond à toutes les questions possibles, alors que c'est clair dans les Écritures que Dieu nous dit qu'il dépasse notre entendement, inévitablement, tu vas en venir à des fausses doctrines. J'ai même le goût de vous dire chez les évangéliques aussi. Si vous trouvez quelqu'un qui a un système théologique qui explique tous les mystères de la Bible, là, c'est sûr qu'il y a des affaires où il est à côté de ses feutres. C'est certain, parce que les Écritures nous disent qu'il y a des mystères. Dieu nous a révélé ce qu'on avait besoin de savoir. Et là où il n'est pas affirmatif et clair, on y va humblement puis on dit « Voici Dieu ce que je peux comprendre avec ta révélation puis j'ai hâte de te voir. J'ai hâte d'être devant toi. D'accord? Les affirmations claires. L'Écriture affirme clairement que Jésus n'a jamais réellement péché. Il était sans péché. Il n'a vraiment pas péché. Les Écritures affirment aussi que Jésus a été tenté. Ce n'est pas une mise en scène. Les Écritures disent qu'il a été tenté. Il a vraiment été tenté. Et l'Écriture affirme aussi que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. J'aime l'approche de Grudem, là. Il va y aller donc par déduction avec ces trois affirmations-là. Je vais vous lire les deux citations, puis je vais prendre vos questions. Il va nous rester 5 minutes pour ça. Donc, ces deux citations que je vous ai données ici. Voici le résumé de M. Grudem. De M. Grudem, j'ai une petite faute ici. Si la nature humaine de Jésus avait existé par elle-même, indépendamment de sa nature divine, alors sa nature humaine aurait été identique à celle que Dieu a donnée à Adam et Ève. Elle aurait été indemne de tout péché, mais néanmoins capable de pécher. Par conséquent, si la nature humaine de Jésus avait existé par elle-même, Jésus aurait pu pécher, du moins en théorie, tout comme la nature humaine d'Adam et Ève était capable de pécher. Deuxième déduction, mais la nature humaine de Jésus n'a jamais existé indépendamment de sa nature divine. Ça, c'est important parce que, mais en fait, je pense qu'on va le voir la semaine prochaine dans l'union de la nature humaine de Christ et de sa divinité. Là, il y a toutes sortes de théories, puis certains vont dire, par exemple, il y avait un livre qui a été publié, L'homme qui devint Dieu. Fait qu'ils vont parler de son humanité jusqu'à son baptême, admettons, lorsque l'Esprit vient sur lui. Ils vont dire, hop, c'est là que sa divinité, sa part divine est venue. Oh, un petit peu, ça a plein d'incidences, là, ça. Là. C'est une fausse doctrine. Mais la nature humaine de Jésus n'a jamais existé indépendamment de sa nature divine, les deux étant inséparablement unis. Depuis le moment de sa conception, c'est pour ça qu'on a pris le temps d'aller voir la naissance virginale, la conception, la naissance virginale de Jésus. Depuis le moment de sa conception, il a existé en tant que vrai Dieu et vrai homme à la fois. Sa nature humaine et sa nature divine étaient unies en une seule personne. 3. Même s'il y a certaines choses comme la faim, la soif ou la faiblesse dont Jésus n'a pu faire l'expérience que dans sa nature humaine, toutefois, une mauvaise action aurait été un acte moral qui aurait apparemment impliqué toute la personne du Christ. Si Jésus, homme, avait péché, c'est Jésus-Christ qui aurait péché. Par conséquent, s'il avait péché, cela aurait concerné à la fois sa nature humaine et sa nature divine. 4. Mais si Jésus avait péché en tant que personne impliquant à la fois sa nature humaine et sa nature divine dans le péché, alors Dieu lui-même aurait péché et il aurait cessé d'être Dieu. 5. Par conséquent, à la question « Était-il réellement possible que Jésus pêche? » nous devrions répondre, semble-t-il, que cela n'était pas possible. L'union de sa nature humaine et de sa nature divine en une seule personne rendait cela impossible. D'accord? C'est par déduction qu'on le fait. Puis on dit, théoriquement, non, il ne pouvait pas le faire parce qu'il était Dieu, puis ça aurait été de ne plus être Dieu s'il avait péché. Est-ce que vous avez des questions juste sur ce point-là? Oui? 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 Est-ce que vous avez compris? Non? C'est un bon raisonnement. C'est un bon raisonnement. La provision divine étant suffisante pour garder les élus de péché dans Matthieu 24, ou d'abandonner Christ pour suivre un faux Christ, mais la provision divine en Jésus-Christ, c'est suffisante aussi pour qu'il ne pêche pas. Un bon raisonnement. Merci. Dernière citation concernant justement les tentations. Si théoriquement, par déduction, on dit, dans le fond, il ne pouvait pas pécher. Est-ce que ses tentations étaient véritables? De nombreux théologiens ont souligné que seul celui qui réussit à résister à une tentation jusqu'au bout en ressent pleinement la force. C'est quand même intéressant comme raisonnement. Hein? Quand tu succombes à une tentation, tu n'as pas éprouvé encore toute la tentation. Parce que tu as cédé. Tu as cédé en cours de route. quand tu vas jusqu'au bout, tu sais vraiment jusqu'où allait cette tentation-là. Et puis, on comprend vraiment les tentations lorsque, justement, ce sont des domaines qu'on a, où on est vainqueur, puis on voit le jeu, on voit tout ce qui se passe, c'est quoi la séduction qu'il y a dedans. Tout comme un champion d'haltérophilie qui réussit à soulever au-dessus de sa tête le poids le plus lourd lors d'une compétition en ressent plus intensément la force que celui qui essaie de le soulever et le relâche. De même, un chrétien qui a réussi à résister à une tentation jusqu'au bout sait que c'est bien plus difficile que d'y céder immédiatement. Et c'est vrai, c'est bien plus facile de céder à une tentation. Alors, le point que Grudem veut faire avec ce raisonnement-là, c'est que Christ les a goûtés, il les a vus, ils étaient là, les tentations devant lui. Puis lorsqu'on voit Christ dans le désert qui est tenté, on le voit très bien qui passe à travers cette tentation-là. Elles sont tangibles, elles sont réelles. Il a vraiment été tenté. J'espère que cet aspect-là, parce que la semaine prochaine, on parle de sa divinité, j'espère que ça rend Jésus plus près de votre cœur, que ça va vous aider dans votre prière, dans votre intercession, dans votre vision de Christ. Et j'espère aussi que ça sécurise votre foi sur certaines fausses doctrines qui sont véhiculées sur la personne de Christ. Il ne suffit pas de dire Jésus, Jésus, pour dire la vérité. On a une conférence qui s'en vient cet automne, Sola, puis une des sessions qui va être apportée, c'est: est-ce que c'est possible de croire en Jésus puis d'être damné pour l'éternité? La réponse est oui, évidemment. Comment est-ce que je fais pour savoir que je crois en Jésus puis que je suis sauvé? La question, c'est quel Jésus tu crois? Et donc ça va être une des sessions. Oui, Karine. Selon l'Évangile de Matthieu? Je crois pas. On va terminer avec un mot de prière. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir de ce que dans ta grâce, dans ton amour pour nous, tu as jugé bon de venir marcher au milieu de nous, Jésus. Seigneur, c'est une bénédiction pour mon âme de pouvoir t'appeler mon frère, de savoir que mes moments de trouble, d'incompréhension, ma foi qui défaille, qui vacille, Seigneur, tu peux avoir compassion de moi. Tu es non seulement ce Dieu grand et parfait, tu es non seulement ce Jésus qui s'adresse à la mer et qui s'adresse aux eaux et qui prend autorité et qui chasse les démons, qui guérit les maladies, qui a l'autorité de pardonner, mais tu es celui qui a pleuré, tu es celui qui a été étonné, tu es celui qui a été fatigué. Tu es celui qui, après une longue journée à te donner, avait envie de prendre une pause et te retirer à l'écart avec tes disciples et juste prendre une bonne bouffe autour d'un beau feu de camp. Je te bénis, Seigneur Jésus. Je te bénis pour ton humanité, mon frère. Et j'ai hâte, Seigneur. J'ai hâte d'être dans ta présence et d'avoir un corps comme le tien, Seigneur, libéré de ma nature pécheresse. Mon frère, c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Merci. Les notes doivent être sur le site Internet si vous en manquez. Je ne sais pas si la feuille de présence a circulé cette semaine.